Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire du championnat de France de rugby à 13. Le championnat de France de rugby à 13 est créé en 1934, un an après la tournée des Pioneers, menée par Jean Gallia en Angleterre, qui introduit officiellement la discipline en France. L'essor de ce sport est accéléré par la venue en France d'une sélection du Yorkshire, joueurs d'Halifax et de Leeds, qui disputent plusieurs rencontres à Villeneuve-sur-Lot, Lyon, Pau, Bordeaux et Paris, suscitant un vif engouement. Dès juin 1934, plusieurs créations sont officialisées. Un club à Villeneuve-sur-Lot, le Paris 13, Bordeaux 13 et Pau. Devant la profusion de nouvelles équipes composées de transfuges de joueurs à 15, Jean Gallia organise d'abord une Coupe de France avant d'envisager, face au développement du nombre de clubs, la mise en place d'un véritable championnat national. Le Villeneuvois Max Roussier est l'une des grandes vedettes de ce lancement du championnat de France. Max Roussier s'engage en période de guerre en tant que canonnier et reçoit la croix de guerre, puis une fois démobilisé, il ne peut retourner au rugby à 13 en raison de son interdiction par le régime de Vichy. Il fait alors 3 saisons à Nice, disputant la finale de la Coupe de France en 1942 avec la sélection du littoral Provence avant de clore sa carrière sportive. Bien que très sollicité par de nombreux clubs, il décline les offres et effectue quelques temps de période d'entraînement à Paris et Mazamet. Il travaille par la suite dans les chantiers pétroliers d'Assi Messaoud en Algérie, en tant que moniteur d'éducation physique. Mais il trouve la mort en raison d'une sortie de route le 2 juin 1959 à Saint-Justin dans les Landes, après la commémoration, avec des anciens trésistes, du 25e anniversaire de la naissance de ce sport en France. En sa mémoire, la Fédération française de rugby à 13 décerne chaque année depuis 1960 un trophée aux champions de France nommé le bouclier Max Roussier, l'équivalent du Brennus en rugby à 15. Dans les années 1930, les dirigeants trésistes tentent d'abord de trouver un terrain d'entente avec les instances de rugby à 15, mais ces dernières s'y opposent farouchement au nom de l'amateurisme. Cette hostilité institutionnelle n'empêche pas la presse de souligner le succès populaire de la première édition du championnat, regrettant que le rugby français n'ait pas choisi, comme le football, d'associer en une même fédération les formes amateurs et professionnelles. Malgré ces obstacles, le lancement du championnat est officialisé en août 1934 avec 10 clubs participants, dont le 13 catalan de Perpignan, composé en grande partie de joueurs sanctionnés par la fédération de rugby à 15. La première édition adopte le modèle du championnat de France de football, avec un classement final qui sacre directement le premier comme champion national, sans phase finale. Le CA Villeneuvois devient ainsi le premier vainqueur de l'histoire de la compétition. Au fil des saisons, plusieurs clubs se partagent les titres. En 1936, le 13 catalan de Perpignan s'impose en finale contre Bordeaux 13, avant que ces deux formations ne se retrouvent en 1937, et cette fois au bénéfice des Bordelais. En 1938, le RC Albigeois l'emporte de justesse contre le SA Villeneuvois, avant que le RC Roanne ne s'impose l'année suivante face au même adversaire. L'édition 1939-1940, marquée par l'entrée en guerre et amputée de nombreux joueurs mobilisés, voit la victoire du 13 catalan, vainqueur en finale de Pau 20-16, décrochant ainsi son deuxième titre. Jean Dauger, grand espoir du 15 de l'aviron bayonnais, rejoint en 1937 le RC Roanne. Le succès de la compétition attire rapidement de nouveaux clubs issus du rugby à 15. Narbonne, Brive, Carcassonne choisissent de rejoindre le rugby à 13, renforçant leur prestige. On assiste également à la création du Toulouse Olympique 13 et à l'arrivée du Cavaillon qui marque l'implantation du 13 dans le sud-est. De nombreuses tentatives de création de clubs voient le jour dans des villes comme Périgueux, Pau ou Dax, témoignant de l'enthousiasme qui entoure alors la discipline. Le développement du championnat est renforcé par l'arrivée de joueurs issus du rugby à 15, séduits par le professionnalisme. Sous l'impulsion de Jean Gallia, de nombreux internationaux rejoignent le 13, parmi lesquels Roger Claudel, Raoul Bonamy, Jean Duhaut, Georges Cossarieux, Robert Samatan, Ernest Cameau, Léopold Servol, Max Roussier, Charles Petit, Marius Giral, Antonin Barbagens et Joseph Griffard. Ils sont rejoints par de nouveaux internationaux tels que Franck Sahuc, René Arotza, Guy Vassal, Joseph Desclos et Félix Berger, voire par de jeunes espoirs du 15 comme Jean Daugé. Cette vague de signatures donne au championnat un niveau de jeu élevé et une légitimité immédiate face à son homologue du rugby à 15. À la fin des années 1930, le rugby à 13 s'impose comme une discipline en plein essor, surtout dans le sud de la France, où ses clubs attirent des foules considérables et bénéficient d'une large couverture médiatique. Cependant, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 interrompt brutalement cette dynamique. La mobilisation générale désorganise les clubs et met fin aux compétitions, stoppant net la première grande période de développement du championnat de France de rugby à 13. À la Libération, le rugby à 13 renaît officiellement après 4 années d'interdiction sous le régime de Vichy. La fédération est rétablie, mais sans récupérer les biens confisqués entre 1940 et 1944, ce qui oblige les clubs à repartir presque de zéro avec peu de moyens financiers et matériels. Malgré ces difficultés, la discipline retrouve rapidement sa vitalité, avec le retour d'équipes historiques comme le 13 catalan, Villeneuve, Albi, Roanne ou Bordeaux, et l'apparition de nouvelles structures ambitieuses comme Marseille. La première finale d'après-guerre a lieu en mai 1945 et marque symboliquement le retour du championnat. Devant une foule enthousiaste, l'AS Carcassonne s'impose de justesse face au Toulouse Olympique 13. 13 à 12, inaugurant une décennie où le 13 reprend sa place dans le paysage sportif du sud de la France. Dans les années suivantes, la compétition gagne en popularité, attirant des affluences considérables, parfois supérieures à 20 000 spectateurs pour une finale. Les années 1950 constituent l'âge d'or du rugby à 13 français. Plusieurs clubs dominent la scène nationale. L'AS Carcassonne, le 13 catalan, le RC Albi 13, Villeneuve 13, mais aussi Lyon-Villeurbanne, champion en 1951, Marseille 13, champion de France en 1949, ou Bordeaux 13, champion de France en 1954, tous connaissent des périodes de succès. Parmi les joueurs, on citera Pie Aubert, considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du 13. Il incarne cette période dorée aux côtés de Raymond Contrastin, Joseph Crespo, Jean Dope, Élie Brousse ou encore André Béraud. Grâce à ces générations, l'équipe de France enchaîne les succès internationaux, allant jusqu'en finale de la première Coupe du Monde en 1954. Ces exploits renforcent le prestige du championnat qui devient l'un des symboles de la renaissance et de l'affirmation du rugby à 13 en France. Pie Aubert, dit Pipette, de son vrai nom Aubert-Henri Jean Puig, est né le 24 mars 1925 à Andernach, en Allemagne. Il commence par jouer au rugby à 15 et devient champion de France en 1944 avec l'Union sportive Arlequin-Perpignanais. La même année, il passe au rugby à 13, qui renaissait après avoir été interdit par le régime de Vichy. Il signe pour l'AS Carcassonne 13. Il marque profondément l'histoire de ce sport en étant le principal artisan de la tournée victorieuse de l'équipe de France en Australie en 1951. Considéré comme l'un des meilleurs buteurs de tous les temps, il est vice-champion du monde lors de la première Coupe du Monde qui a lieu en France en 1954. En club, il remporte le championnat de France de rugby à 13 à 5 reprises sous les couleurs de l'AS Carcassonne 13 et du 13 catalan. Pie Aubert détient le record du nombre de points marqués à une équipe de France de rugby à 13. Il meurt le 3 juin 1994 à 69 ans des suites d'un cancer lié à son tabagisme. Il sera inhumé à Arles-sur-Tech où il a vécu. Après Lézignan en 1961, de nouveaux clubs inscrivent leur nom au palmarès dans les années 1960 et 1970, tels que Toulouse en 1965, Limoux en 1968, Saint-Gaudens en 1970 et Saint-Estève en 1971. Néanmoins, on sent un essoufflement, une perte de vitesse. À partir de 1978, le 13 Catalan, club de Perpignan, devient le club référence du championnat, puisqu'en 7 éditions, seul Villeneuve-sur-Lot en 1980, ainsi que la finale non jouée en 1981, l'empêchent de remporter le titre. Le 13 Catalan compte alors dans ses rangs Bernard Gouache, Yvan Gressec, Jean-Jacques Colonier, Jean-Marc Bourré, Guy Laforgue, Francis Laforgue, Serge Palares et Pierre Montgaillard. La finale du championnat de 1981 met aux prises l'équipe du 13 Catalan contre Villeneuve-sur-Lot, soit les deux derniers champions de France au Stadium de Toulouse. Après 4 minutes de jeu, l'arbitre interrompt la rencontre en raison d'une bagarre générale entre les deux équipes. La rencontre est finalement arrêtée et aucun vainqueur n'est désigné. La finale de la Coupe de France, programmée quelques jours après, est également annulée. Malgré la non-retransmission en direct de cette finale du championnat, les images tournées sont apparues dans le traitement de nombreux journaux télévisés. La Fédération française de rugby à 15 se saisit alors de l'occasion, par l'intermédiaire de son président Albert Ferraz, pour proposer de fusionner les deux fédérations de rugby et ainsi supprimer le rugby à 13. Cette proposition est écartée par le président de la Fédération de jeux à 13, Jacques Sopelsa, qui la refuse et décide d'entamer une action juridique contre la Fédération française de rugby à 15 pour permettre à son sport d'avoir le droit de s'appeler rugby à 13 et non plus jeux à 13, terme imposé par l'État au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et cette procédure serait gagnée 12 ans plus tard, en 1993. Finaliste en 1985 contre le 13 Catalan, Le Pontet, près d'Avignon, réussit à construire une équipe en 1986 qui remporte pour la première fois le championnat de France. Le club parvient en finale 5 années de suite, entre 1985 et 1989, pour 2 titres en 1986 et 1988. Le club compte dans ses rangs Marc Palanque, Patrick Rossi, Serge Titeux, David Fraisse et Didier Couston. La finale perdue contre Saint-Estève en 1989 marque la fin de l'aventure du Pontet en rugby à 13. Le renouveau du rugby à 13 s'amorce au début des années 1990 grâce à l'équipe de France qui crée une surprise en battant la Grande-Bretagne 25 à 18 chez elle sous l'impulsion d'un grand Gilles Dumas, joueur de Saint-Gaudens. La France s'impose à 2 reprises aussi contre la Papouasie-Nouvelle-Guinée en Coupe du Monde 1989-1992. Jacques Fourou, l'ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby à 15, puis de Grenoble, quitte le rugby à 15 fâché avec ses dirigeants. En effet, en 1993, alors qu'il est le manager du club isérois, Jacques Fourou est candidat à la présidence de la Fédération française de rugby en concurrence avec Bernard Lapassé. Ne pouvant accéder à la présidence de la Fédération de 15, il se tourne alors vers le 13 en septembre 1994. En 1995, Jacques Fourou lance une nouvelle compétition régionale conciliant rugby à 13 et spectacle musical avec entrée gratuite appelée France Rugby League. Celle-ci, qui se déroula durant l'été 1995, eut un succès réel, tant populaire que médiatique. Et l'année suivante, une équipe française, le Paris Saint-Germain 13, fut invitée à rejoindre le nouveau championnat européen de la Super League, mais le club cessa ses activités à la fin de la saison 1997 en dépit d'un bon succès populaire. Respectivement finalistes du championnat et de la Coupe de France en 2000, Saint-Estève et le 13 Catalan connaissent des difficultés financières pouvant mettre en péril les deux clubs parmi les plus titrés du rugby à 13 français. Ainsi, à l'été 2000, sous l'impulsion de Bernard Gouache, les clubs ennemis des Pyrénées-Orientales décident de fusionner afin de créer l'Union Treziste Catalane, UTC. Cette fusion est une révolution après des décennies de derby enflammés. L'édition 2000-2001 du championnat s'ouvre alors avec comme principaux favoris Villeneuve-sur-Lot, Toulouse et l'Union Treziste Catalane. Ce sont les Léopards d'Aquitaine, surnom des joueurs du club de Villeneuve-sur-Lot, qui empochent le bouclier Max Roussier en triomphant de Toulouse en finale 32 à 20, annonçant le début de la domination villeneuvoise sur le championnat. L'année suivante, 2001-2002, les joueurs du Lot-et-Garonne doublent la mise en dominant l'UTC en finale à Béziers sur le score de 18 à 0. Cette saison vit l'éclosion de l'un des joueurs majeurs de la décennie, Jamal Fakir. Cette équipe verte, composée de joueurs français de talent, Rinaldi, Laurent Frayssinou, Banquet, Vansnik, Carrasco, Galeazzo, Despin, Fakir, ainsi que d'étrangers expérimentés comme Djordjevic, Sid, continue sa moisson de trophées l'année suivante en terrassant Saint-Gaudens en finale à Narbonne. Il s'agit du dernier titre en date pour le club villeneuvois. En 2003-2004, Villeneuve fait face à une vague de départ impressionnante, notamment en direction de l'UTC. Cet attrait du club catalan s'explique par son entrée future dans le championnat professionnel britannique, la Super League. Cette entrée s'est faite sur dossier. Trois clubs français étaient en lice, à savoir Villeneuve-sur-Lot, Toulouse et l'Union Trésiste Catalane. C'est ce dernier qui fut choisi, notamment pour sa capacité à rassembler un plus large public. C'est donc en favori que l'UTC se présente sur la ligne de départ de l'édition 2003-2004. Mais contre toute attente, c'est le club de Saint-Gaudens qui s'adjuge le quatrième titre de champion de son histoire en triomphant de joueurs catalans passés à côté de leur finale, qu'il plus est à Perpignan. Ce titre récompense une formation comme un joueuse composée de joueurs talentueux tels que Claude Sirvent, Arnaud Dulac ou Jean-Christophe Borlin. Cet échec digéré, l'UTC repart à l'assaut du titre en 2004-2005 pour ce qui va être sa dernière saison en championnat de France avant son intégration en Super League anglaise. La saison 2005-2006 marque un nouveau départ pour le championnat de France. Le champion en titre, l'Union Trésiste Catalane, ayant quitté l'Hexagone pour rejoindre la Super League sous le nom des Dragons Catalans. C'est néanmoins une nouvelle fois un club catalan, Pia, et son club Pia 13 qui décroche le bouclier, bien emmené par Maxime Grézeg et par des Australiens de talent tels que Dean Bosnich. La saison 2006-2007 vit Pia être à nouveau couronné grâce à son succès en finale sur Lézignan. Cette saison-là marque le retour au premier plan du club lézignanais après des années difficiles et un quasi-dépôt de bilan lors de la saison 2004-2005. Cette finale est le prémisse de la domination du club audois lors des saisons suivantes. En effet, après 30 ans d'attente, Lézignan décroche le titre de champion de France en 2008 en battant Pia en finale au stade de la Méditerranée de Béziers. Le vieux club des Corbières déplace avec lui un cortège impressionnant de supporters colorés. C'est à nouveau le cas l'année suivante, lors de la finale au stade Albert Domecq de Carcassonne, face au rival audois Limoux. Au terme d'un match spectaculaire ponctué de nombreux essais, Lézignan empoche ce second titre de champion de France consécutif. Cette finale, devant près de 12 000 spectateurs, rappelle les grandes heures du rugby à 13. Le triplé fut réalisé l'année suivante, à Montpellier, face à l'éternel rival des temps modernes, Pia. Cette domination outrageante est marquée par le premier doublé de l'histoire du club, Limoux ayant été terrassé en finale de la Coupe de France. Depuis le début de la décennie, les clubs semblent vouloir se structurer et mettent en avant la formation. Alors qu'il était composé de 9 clubs pour la saison 2009-2010, le championnat est élargi à 10 clubs en 2010-2011 avec l'arrivée de Montpellier Agglomération Rugby 13. À l'orée de cette saison, Lézignan s'attaque au record du 13 catalan, à savoir remporter un quatrième titre de champion de France consécutif. C'est pourtant chose faite en 2011 à Narbonne face à Limoux. C'est également le second doublé consécutif pour les Sangliers des Corbières. Ce quatrième titre est le point d'orgue pour une génération de joueurs ayant été de tous les succès, Aurélien Colony, James Wayne ou Nicolas Piquemal. La saison 2011-2012 marque le retour dans le chemin de France du Toulouse Olympique après 3 années mitigées en seconde division anglaise. En 2012, c'est néanmoins un autre club audois, Carcassonne, qui décroche le bouclier Max Roussier en battant à la surprise générale Pia en finale à Narbonne. C'est le premier titre pour le club historique de la préfecture audoise depuis 1992. Malgré cette défaite en finale lors de la saison précédente, Pia aborde la saison 2012-2013 avec le statut de favori. Le club des Pyrénées-Orientales est engagé lors de cette saison sur un seul tableau après que la Fédération française de rugby à 13 l'ait exclue de la Coupe de France à la suite des incidents ayant émaillé la précédente finale du championnat. Ce statut de favori fut parfaitement assumé par le club. Celui-ci survola l'exercice et s'adjugea le titre de champion de France après sa victoire face au rival de Saint-Estève en finale au stade de Gilbert Brutus de Perpignan. Les années se suivent et il devient compliqué pour la fédération de maintenir un championnat élite. Lors de la saison 2013-2014, c'est le champion de France en titre, Pia, qui disparaît de l'élite à la suite d'une diminution d'une subvention municipale. Le championnat est alors complètement redessiné. Trois groupes sont mis en place, appelés Poule Élite 1, composé des 8 meilleurs clubs, Poule Élite 2 Ouest, composé de 6 clubs, et Poule Élite Est, composé de 6 clubs, où le championnat se déroule en plusieurs phases et se ponctue par des phases finales. Pour la cinquième fois de son histoire, le Toulouse Olympique 13 remporte le titre contre Lézignan, réalisant le premier doublé coupe championnat de son histoire. Celle-ci voit Toulouse asseoir sa domination sur l'Hexagone en remportant un second titre consécutif en 2014 aux dépens de Carcassonne. Après avoir évolué durant trois saisons de 2009 à 2011 en Championship, deuxième division anglaise, le Toulouse Olympique part de nouveau tenter sa chance outre-Manche en intégrant la troisième division britannique, l'objectif étant d'atteindre la Super League. Néanmoins, le club toulousain engage une équipe réserve dans le championnat national. Pour la saison 2015-2016, ce sont les deux leaders de la phase régulière à égalité de points, Carcassonne et Limoux, qui se retrouvent en finale au Stadium d'Albi le 21 mai 2016. Au terme d'un match serré, ce sont les Limouxins qui empochent le titre de champion de France. Ils mettent fin à 48 ans de disette et empochent le second titre de l'histoire du club. Pour la saison 2016-2017, un club historique fait son retour dans l'élite. Il s'agit de Saint-Gaudens, ce qui porte à 10 le nombre de clubs en première division. Les favoris se nomment Lézignan, Limoux, Carcassonne et Saint-Estève, 13 catalans. La saison régulière se traduit par un survol de l'équipe lézignanaise, celle-ci ne concédant qu'un seul revers lors de la phase régulière. Et la seconde défaite intervient au plus mauvais moment, en finale, le 3 juin 2017 à Narbonne face à Limoux. Le club de la Haute-Vallée de l'Aude remporte ainsi ce second titre de champion consécutif. Le championnat 2017-2018 voit l'équipe d'Avignon remporter son premier titre de champion de France grâce à sa victoire en finale sur l'équipe de Limoux, double tenant du titre. Cette victoire fait suite à une disqualification de l'équipe de Saint-Estève, 13 catalans, leader de la phase régulière et victorieuse d'Avignon en demi-finale. Mais la présence de joueurs des Dragons catalans sur la feuille de match entraînera la défaite de l'équipe catalane sur tapis vert. La saison suivante, 2019, verra la revanche de Saint-Estève face à Carcassonne en finale à Albi. C'est le second titre remporté par le club depuis la fusion de Saint-Estève et du 13 catalan en 2000, le premier depuis l'intégration des Dragons catalans en Super League. C'est également la première fois qu'une équipe dite réserve remporte le championnat. C'est le sacre d'une équipe très jeune, formée de jeunes talents provenant de tout l'Hexagone tréziste. Toutefois, il est à noter un désintérêt croissant pour la compétition, l'assistance des deux dernières finales se situant dans les plus basses fourchettes de l'histoire de la compétition. Quant aux vainqueurs, on retiendra en 2021 Lézignan, 2022 Carcassonne, 2023 Limoux, 2024 de nouveau Carcassonne et 2025 Albi. Au départ de cette saison 2025-2026, 11 équipes participent au championnat élite. 9 sont localisées en région Occitanie. Albi, Carcassonne, Lézignan, Limoux, Saint-Estève, Pia, Saint-Gaudens, Toulouse Olympique et Villefranche en Aveyron. À ces clubs d'Occitanie s'ajoutent Avignon et Villeneuve-sur-Lot.
C'était la chronique de Gilles Labouroir à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.